bonjour et bienvenue à cette rencontre où nous allons évoquer une femme d'exception, une vraie véritable légende du Grand Ouest américain, celle que l'on appelait Calamity Jane. Pour en parler, nul ne pouvait être mieux indiqué que Mathieu Périssin, qui est à ma gauche et qui est l'auteur d'un roman graphique en trois volumes et dont les planches originales sont exposées au Palais du Grand Large. Et moi, c'est Lénaïque Durel qui ai conçu les expositions. Voilà, Mathieu.
Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que Mathieu Périssin et Christian Blanchard sont représentés par mon humble personne aujourd'hui. Christian, qui a présidé à l'écriture du récit, ne pouvant malheureusement pas être présent. Mais c'est vrai que cette aventure a commencé deux jours après la rencontre de Christian Périssin, il y a une dizaine d'années, il y a 11 ans.
Vous êtes rencontrés, vous vous connaissiez déjà ou...
On avait eu un professeur commun. Moi, à l'école Émile Cole à Lyon, j'avais eu le privilège de rencontrer Yves Gott, créateur avec Pétillon notamment du Baron Noir. Et Christian Périssin, lui, il avait eu dans les cours du soir des arts appliqués à Paris. On était... Et Yves Gott nous disait alors... Moi, je ne connaissais pas Christian, mais de loin, je savais qu'il existait. C'était l'ami d'un ami, etc. Et de fil en aiguille, un jour, Gott nous a glissé à l'oreille à l'un et à l'autre. Peut-être que vous rencontrez, ça pourrait être fructueux.
Ça, c'est joli, les rencontres.
Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé par boire un coup à Place de la République à Paris, tous les deux, et on a sympathisé immédiatement. Et deux jours après, dans ma boîte aux lettres, je recevais ce petit livre avec un petit mot de Christian qui me disait « Même si on n'en fait rien, lis-le, tu verras, c'est très chouette. Ouais. » Et en fait, je l'ai appelé aussitôt et j'étais emballé parce que j'imaginais pas un jour oser m'aventurer dans les territoires de l'Ouest américain du 19e siècle, vraiment. Et c'est grâce à ce personnage que j'ai pu quand même faire le voyage.
Oui, alors Calamity Jane, de son véritable nom, Martha Jane Canary, c'est grâce à ce document que vous avez, c'est le fil conducteur en fait de toute la bande dessinée, Lettre à sa fille, ce sont des documents historique, véridique, elle a écrit à sa fille tout au long de sa vie, s'est rassemblée dans cet ouvrage, ça a été retrouvé aux États-Unis.
En fait, l'histoire commence aux États-Unis dans les années 40. Une femme prend la parole à la radio aux États-Unis en disant « Je suis la fille de Calamity Jane ». Et pour preuve, j'ai avec moi les manuscrits des lettres que ma mère... Calamity Jane m'a écrite sans jamais me les envoyer, qu'elle m'a léguée à sa mort. Alors, les Américains étant très friands de leur propre histoire, puisqu'elle est assez maigre, à part malheureusement le génocide indien, ils sont assoiffés de leur propre légende. Et il y a eu un branle-bas de combat autour de ces lettres qui ont été très vite publiées, comme un authentique original, bien sûr. De la main de Calamity Jane, aux États-Unis et assez rapidement en France et dans le monde entier. Et donc, effectivement, cet original a dormi avec tout le fond d'archives.
D'archives, photographiques.
Photographiques, les photos de ses parents, les livrets de théâtre, puisqu'elle était de son vivant, elle était jouée au théâtre, Calamity Jane, dans des espèces d'opérettes. Western, à la fin du 19e siècle, et comprenant enfin, beaucoup d'archives, justement, qu'on a pu découvrir petit à petit.
Alors j'imagine que oui, ces archives, vous y avez eu accès.
J'ai eu accès de manière assez officieuse au départ, puisque au musée des manuscrits à Paris, j'ai entendu parler d'une exposition Calamity Jane, d'un fonds Calamity Jane, qui a été acquis dans les années 90 par un documentariste qui s'appelle Grégory Monroe, qui a fait... une compilation
du livre qui est posé sur l'estrade.
Qui référence sa propre lecture des sources qu'on peut trouver sur Calamity Jane, qui sont essentiellement américaines pour l'aspect historique.
Donc vous avez construit on va plonger dans sa vie, cette femme. Vous avez construit la BD en 3 tomes, où elle est toute jeune fille, et où elle traverse les États-Unis avec ses parents, et ça fait toute la famille en chariot, sont des migrants. Voilà, ça commence comme ça, les premières années.
On a reconstitué à partir des traductions des lettres, donc qui existent en France depuis une trentaine d'années. On a reconstitué un cheminement. Parce que d'emblée, on s'est dit, ça sera impossible. C'est comme la vraie vie de toutes les gens, la vraie vie de Homer, qui connaît la vraie vie d'une légende. D'autant que, déjà, elle-même, dans ses lettres, elle avoue raconter des bobards aux journalistes qui viennent lui demander, eh ben alors c'est vrai que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez eu une fille avec quoi, le Billy Cox, c'est vrai, ben oui, je peux même vous raconter comment on s'est rencontrés, je suis parti pour lui sauver la vie, puis en fait c'est lui qui a flingué tout le monde, enfin, etc. Avec des détails qui ne peuvent pas être inventés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent très fantasques, et puis des détails sur les territoires traversés, sur l'ambiance, sur la façon dont fonctionnaient les Indiens, dans certains rituels particuliers, après la bataille de Little Big Horn, par exemple, où Custer a mangé sa pipe. Et donc, je me perds.
Oui, on va... on repart des premières années, ouais. Comment elle arrive dans cette traversée vers l'Ouest, ouais, américain. Ses parents sont des migrants, ils s'en vont vers... Et ils sont mormons.
Et c'est ça. C'est ça qu'on a découvert assez vite. Comme tous les effets migratoires sont liés à une nécessité vitale, soit pour la faim, soit pour fuir les guerres, soit pour fuir, comme tous les Américains sont issus eux-mêmes de pays européens qui traversaient des crises notoires, Calamity Jane, elle est née dans une famille, elle est l'aînée d'une famille de 6 frères et sœurs mormons, dans le Missouri. C'est là, au départ, que la principale communauté s'était souchée et développée, en développant autant la théorie, le culte, etc. Mais ils ont été très vite... au départ, ils n'étaient pas pluri-mariage. Ce n'était pas leur truc principal. Puis, très vite, il s'est ajouté ce dogme, je dirais, à cette famille de croyances, qu'on pouvait, et que c'était même très encouragé, de croiser, multipliez-vous, etc., selon une certaine lecture du principe biblique. Et ben, c'est vrai qu'avec plusieurs femmes, on peut faire beaucoup plus d'enfants qu'avec une seule. Et puis qu'une fois que la première vieillit, on peut la laisser s'occuper du linge et du reste, et alors que les jeunes peuvent tout à fait, justement, accompagner les soirées agréablement.
Donc en fait, Martha, elle va perdre ses parents
pendant la traversée. Voilà. Donc, ouais. Et Martha fait partie des dernières vagues de migrants. Parce que le Missouri, c'est très riche. C'est une terre très, très riche. Tout pousse très bien. Le climat est très doux. Enfin, c'est les plaines. C'est les grandes plaines. Et ils ont eu du mal à quitter. Et finalement, ils s'en vont. Ils remontent en cherchant un passage dans les Rocheuses, ce qui est déjà extrêmement aventureux. Et puis, pendant le voyage... Apparemment, la mère de Calamity Jane meurt d'une pneumonie, ce qui était très fréquent. Ensuite, le père parvient jusqu'à Salt Lake City, où donc va se soucher ensuite. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, les Mormons ont voulu et ont pensé pendant longtemps, puisque dans les années, fin des années 1860, c'est encore un territoire, ce qu'on appelle un territoire, c'est-à-dire le gouvernement américain est incapable d'assumer la moindre juridiction là-dedans. Donc c'est sauvage, c'est libre. Comme Deadwood, après, elle a été un petit peu plus au nord. C'est ce qui a fait aussi la légende de l'Ouest sauvage, où on pend haut et court un voleur de bétail, par exemple. C'est ce qui est arrivé de temps en temps, c'est vrai. Là, elle arrive à Salt Lake City. Peu de temps après l'installation, le père meurt. Et elle se retrouve à 15-16 ans, Peut-être plus jeune, justement, c'est, oui, c'est un de ses traits de caractère.
On ne sait pas, oui, elle pense souvent sur son âge.
Et parce qu'elle a triché sur son âge pour ne pas être mise à l'orphelinat avec sa fratrie, en fait. Un des aspects intéressants de la communauté mormone, c'est que il y avait un grenier pour toute la communauté, il y avait un orphelinat qui était prévu en cas de nécessité. Et elle, c'était impensable. Vraiment, on a retrouvé ça, que c'était, dès son adolescence, elle était tellement éprise de liberté que c'était impensable de se retrouver sous la loi d'une institution. Donc, elle quitte ses frères et sœurs apparemment sans beaucoup d'état d'âme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce que son enfance est encore là, toute fraîche. Elle va essayer de remonter la piste pour retourner dans le Missouri. Refaire le chemin inverse.
Voilà. Et toute seule.
Seule.
Je vais vous lire une des premières lettres de ce recueil où elle s'adresse donc à sa fille Jenny. On est en 1877. Un autre jour est passé, chérie. En fait, 3 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Je suis assise à côté de mon feu de camp. Mon cheval Satan est attaché tout près. Tu devrais le voir quand la lumière du feu de camp joue sur son encolure luisante et sur les muscles de ses épaules satinées, avec ses pieds blancs et son losange blanc entre les yeux. C'est un objet de toute beauté. Je suis si fière de lui. Ton père me l'a donné, et j'ai aussi son compagnon de course, King, que j'utilise comme cheval de charge pour les longs trajets. Mais je ne l'ai pas pris avec moi dans ce voyage. Je peux entendre les coyotes et les loups et la plainte saccadée des chiens indiens près de leur camp. Il y a des milliers de Sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglée et ne me font jamais de mal. C'est quand même incroyable. Elle part toute seule dans des territoires sauvages avec son cheval et elle est au milieu de la nature et du danger, mais en fait, elle n'est pas si craintive que ça.
Oui, et ça, c'est ça, justement, en fait, on a découvert, c'est un passage extrêmement crédible, même du point de vue historique et ethnologique. C'est-à-dire que pour un Indien des plaines, un être humain qui est tout seul dans la nature, soit il a été banni, parce que et la seule cause de bannissement, c'était la peine la plus grave, entre guillemets, qui pouvait s'allouer, c'est en cas de meurtre. Soit, c'est une blanche, mais d'un point de vue des Indiens, elle est en quête de vision. C'est-à-dire qu'elle est en train d'accomplir un rite initiatique pour devenir plus mature dans son cheminement. Et donc, c'est tout à fait crédible. Et des milliers d'autres migrants contemporains de cette femme ont vécu ça. Entendre les tambours, rencontrer au détour d'un bois un Indien, et évidemment, ils ne décochaient pas une flèche. Les uns et les autres se disaient, c'est qui celui-là, quoi. Jusqu'à ce que, après la période des trappeurs, justement, jusqu'à ce qu'il y ait quand même des accrochages, mais qui étaient la plupart du temps provoqués par l'armée américaine. La plupart des migrants, au départ, étaient aussi ignorants des Indiens que les Indiens étaient des Blancs.
En fait, ils s'observaient. Il y avait pas, oui.
Donc c'est tout à fait vraisemblable, ce passage-là. Et en plus, il y a une beauté poétique...
Elle vivra longtemps. Elle vivra de nombreux moments comme ça tout au long de sa vie.
Oui. Bon,
même si après il faut bien vivre, donc on va avancer dans son histoire. Oui. Elle va faire des tas de métiers.
Oui.
En fait, c'est dans les villes où elle passe, elle s'arrête et pour gagner sa vie, elle va être. Je vous laisse.
La Vendière.
Voilà.
La Vendière. Qu'est-ce qu'on peut être? On peut être infirmière, on peut être à cette époque-là, on peut être prostituée. D'autant qu'il y a maximum une femme pour 10 hommes dans les années 1870-1880. C'est tellement rude que les hommes partent, comme dans d'autres migrations, les hommes partent d'abord chercher du travail et puis on essaye de faire venir des femmes. Mais pendant des décennies, il y a eu une pénurie de femmes, littéralement. Ouais. Et Calamity, comme ça, passe de petit boulot en petit boulot. Et c'est un aspect qui est assez répétitif. Il y a des hauts faits qu'elle relate dans ses lettres à sa fille. Et puis, il y a des faits nettement moins glorieux, qui est un quotidien très... Qui est le quotidien de beaucoup de ses contemporains. C'est essayer de se nourrir, jour après jour, essayer de survivre à des maladies parfois inconnues, ou dont on ne connaît pas bien les origines. Et puis, trouver une vie... une forme de stabilité affective, en tout cas.
Voilà. On oublie de dire qu'elle est quand même pas... Elle est prise de liberté, donc elle aime le cheval, c'est une très bonne écuyère, elle s'habille en homme, elle porte des armes pour éventuellement se défendre, et on va peut-être parler du grand amour de sa vie.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est deux choses qui... Enfin, s'habiller en homme pour une femme, c'est interdit. Même rentrer dans un saloon, c'est interdit par la loi. Ce qui fait, on a fait une petite scène là-dessus. Une femme qui est prise en flagrant délit de boire un coup dans un saloon, elle est conduite immédiatement à la prison locale. Bon, il y a beaucoup de règles comme ça qui étaient analogues en Europe au même moment. Une femme, de la même manière, ne se promenait pas en cheveux, comme on dit. On ne se promenait pas les cheveux au vent ou même attachés. Il fallait absolument être coiffé. J'ai retrouvé des lettres, des documents de la même période où a vécu Calamity, qui témoignent de femmes qui traversent le désert sous 50 degrés de soleil avec des gants pour ne surtout pas montrer leurs mains aux hommes. Bon, on est vraiment...
Donc elle est à l'antithèse.
Et la manière de trouver justement, de chercher son chemin de liberté, la seule manière qu'elle trouve, c'est de vivre comme un homme la plupart du temps. Et c'est ce qui a d'ailleurs masqué sa féminité pendant longtemps. Cette espèce d'image, moi je ne connaissais pas autre chose que le livre de Lucky Luke de Maurice Goscinny. Et d'ailleurs, aucun Français ne pouvait connaître autre chose, à part ceux qui étaient allés aux États-Unis, qui avaient eu des témoignages. Et même là-bas, elle continue à être montrée comme ça. Il y a des femmes qui font des shows et qui disent « Moi, c'est Calamity Jane, c'est à l'américaine, quoi. » C'est du... Et c'est vrai qu'en côtoyant des hommes, elle peut avoir des métiers comme convoyeuse pour l'armée, ce qui est extraordinaire. Et c'est vrai que dans sa jeunesse, elle a pu se faire passer pour un homme, avec sa gouaille. Puis même si elle était dévoilée, dans l'intimité des relations, elle était accueillie. Et puis un autre aspect de sa personnalité, c'est qu'elle était justement très généreuse, très sympathique, pleine de ressources.
Oui. moi, je reviens quand même à Bill.
À Leacock.
Oui, Bill Leacock.
Autre légende de l'Ouest.
Une autre légende, quand deux légendes se rencontrent. Ouais. Oui, Bill Leacock est un justicier.
Un justicier qui a travaillé pour le gouvernement auparavant, qui était aux douanes, qui était aux impôts sur l'alcool, et puis qui s'est fait une réputation aussi dans la guerre de sécession du côté des nordistes, et qui, à cette époque-là, est réputé pour un des plus grands, comme dit Calamity Jane, a vraiment un très grand tireur des deux mains. Alors là, on est en plein dans la légende, on est en plein dans le western, mais elle avait conscience... comme beaucoup de ses contemporains qui sont devenus des légendes, Buffalo Bill, on pourra en reparler, conscience de sa propre publicité, j'oublie pas Leacock. Hein.
Non, je vous laisse parler.
C'est des choses importantes à dire. C'est, le Lucky Luke réalisé par Maurice et Goscinny sur Calamity Jane, ils avaient en main comme documentation l'autobiographie que Calamity Jane portait sur elle et qu'elle vendait à la sauvette pour se faire trois ronds et qu'elle avait rédigée avec l'aide d'un journaliste. Et ce document-là a été traduit pour réaliser cet album, mais pendant des années, il n'y a rien eu d'autre. D'autres ressources.
Et c'est ce que vous disiez précédemment, voilà. En fait, elle invente tout, elle réécrit sa propre vie, elle ouais. raconte des bobards, ouais. ça devait être une conteuse merveilleuse en fait.
Oui, apparemment elle fascinait les gens, c'est comme Andersen dans un autre contexte, dès qu'il commençait à parler, tout le monde s'arrêtait et on écoutait, et les petits comme les grands faisaient cercle. C'était vraiment une conteuse. Et forcément, elle avait vécu des choses, pour pouvoir broder, il faut avoir une trame sur laquelle broder. Et sa rencontre d'Leacock, c'est très émouvant parce que c'est ce qui fait la colonne vertébrale et en même temps le vide émotionnel, affectif principal de sa vie. C'est-à-dire qu'elle fait une fille avec cet homme,
oui.
Janet, et elle ne va pas pouvoir l'élever. Elle a une vie tellement aventureuse qu'elle n'est pas en capacité simplement de se poser plus d'un mois quelque part. Et d'avoir l'attention suffisante, et elle est consciente de ça, donc elle cherche
Oui, elle
cherche
à confier sa fille.
Et elle trouve des riches armateurs qui naviguent dans le monde entier et qui, eux, ne peuvent pas avoir d'enfants.
Qui
l'accueillent.
Oui, en 1874, elle confie sa fille à ce couple, sans enfant. Ouais. Et donc, du coup, c'est de là que viennent les lettres. Parce qu'en fait, toute sa vie après, elle regrette. Elle est à la fois heureuse que sa fille ait de vivre dans un autre milieu qu'elle, mais elle voudrait aussi que sa fille sache qui elle était réellement. Je vous lis un autre petit passage d'une autre lettre. Une autre année est passée. Rien d'important n'est arrivé sur quoi écrire. Le Northern Pacific Railroad est près d'être achevé. Une nouvelle ville surgit, mais je t'en ai parlé dans l'album. Je vais te voir bientôt. Je peux à peine attendre. Je joue ces jours-ci afin de gagner assez d'argent pour en donner à ton papa Jim pour ton éducation. Je veux coincer les dirigeants du NP quand ils viendront ici et il ne se passera qu'un petit moment avant qu'ils arrivent. J'ai l'intention de faire une partie avec eux. Et ensuite, je serai en route pour la vieille Virginie afin d'être un moment avec toi. Mon ami Wild Lul me manque car il me finançait. Il était toujours prêt à risquer sur moi. Un soir, il m'a prêté 5 dollars et quand je l'ai vu le matin suivant, j'avais 1000 dollars. Mais ça s'en va, Janet. Ça part aussi facilement que c'est venu. Je trouve toujours un pauvre sacré idiot dans un état pire que le mien et l'aide à faire une petite mise ou à acheter vêtements et nourriture à une famille d'enfants abandonnés de Dieu. Je ne pourrais pas manger une bouchée si je voyais un pauvre petit moutard affamé. Je pense toujours à toi, chérie. Et voilà mon argent parti. Ensuite, je recommence tout. Je ne pense pas avoir le moindre mérite à agir comme je le fais. Il m'arrive parfois d'être un peu ivre, Janet. Mais je ne fais de mal à personne. Il faut que je fasse quelque chose pour vous oublier, toi et ton père. Mais je ne suis pas une femme légère, Janet. Si j'en étais une, je ne serais ni infirmière, ni éclaireuse, ni conductrice de diligence. C'est comme ça qu'on m'appelle à Deadwood et Billings. Que ces villes aillent au diable, elles aussi. Dans l'une et l'autre, il ferait mieux de voir la poutre dans leur œil que la paille dans l'œil du voisin. Une caisse de livres vient d'arriver de la part de ton papa Jim. Pour sûr, il veut que j'apprenne quelque chose. Dans le nombre, il y a quelques romans. Naturellement, je suis juste assez toquée pour les attraper les premiers. J'aime vraiment le roman de M. G. Holmes et j'aime le lire comme un porc va à sa pâtée. Tu devras excuser ta mère, Janet. Elle sait qu'elle est bizarre et mal léchée. Je vais aller te voir bientôt, maintenant. Mais il faut que j'entre dans une partie de poker et gagne 20 000 dollars avant de pouvoir aller vers toi. Je m'occupe d'une fille et d'un garçon et je dois dire que Jackie est partie pour l'Alaska. Ces deux-là sont plus âgés. La fille a 16 ans, le garçon indien 18. Je vais les emmener dans l'Est avec moi quand j'irai te voir, si je gagne la partie de poker. Et en fait, non seulement elle pense à sa fille, mais on s'aperçoit qu'elle est d'une générosité absolue. L'argent va, vient, elle trouve toujours quelqu'un à aider, à soigner. Elle élève les enfants des autres. Elle qui n'a plus sa propre fille.
Alors, une autre manière dont elle a pu survivre, c'est en étant nourrice. Et ça, donc ça veut dire, pour être nourrice, il faut avoir du lait pendant tout le temps qu'on a des nourrissons. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'elle décrit dans ses lettres, c'est qu'on lui confie des enfants, et puis parfois, on ne vient pas les chercher. C'est quelque chose qui arrivait, qui arrive encore. Et parmi ses enfants, à des moments de sa vie, elle a été... elle a tenu à leur envoyer de l'argent, ou leur donner de l'argent, jusqu'à ce qu'ils puissent devenir étudiants dans des villes de l'Est, du côté de New York, etc. Et... comme autre aspect de sa générosité, il y en a un qui est vraiment très à propos de la véritable histoire de Jimmy Chen, qui a été attestée. C'est-à-dire, à une époque, elle travaille pour le Pony Express. Vous savez, c'est vraiment une période très, très brève dans l'histoire de l'Ouest. C'est avant qu'il y ait le télégraphe, avant que le train, justement, traverse d'est en ouest et du nord au sud le continent nord-américain. La manière pour faire circuler les informations, le courrier, c'était à cheval, avec des relais, comme il existait en Europe. Et à une époque, les diligences même passaient tout juste. Donc c'était des cavaliers qui passaient de leur journée à sauter d'un cheval à l'autre. Et ils étaient très bien payés, Mais elle a fait ça pendant un temps. Et elle entend très vite parler de l'épidémie de variole qui sévit à Deadwood. Et Deadwood, c'est justement une ville dans le Dakota où elle a passé du temps, où elle a des amis. Will Yule, oui. C'est un ami dont elle part. C'est une ville de chercheurs d'or qui est décrite dans différents ouvrages historiques. Là, on a des choses. Il y a une belle série que j'ai découverte télévisée après la réalisation de ces ouvrages, que j'ai pas trop regardé non plus parce que je savais que c'était un très bon ouvrage filmique. Et elle entend parler de cette elle sait qu'elle a plein de copains dans cette ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait pas si elle est immunisée contre la variole ou pas. Elle fonce et elle va participer à la fondation d'un sanatorium où la plupart des patients accueillis mourront, parce qu'on ne sait pas à l'époque distinguer ce qu'on appelle la grosse variole de la petite variole, de la grosse vérole de la petite vérole. La petite vérole, on peut en guérir, et la grosse, c'est la syphilis en fait. Et à l'époque, comme les symptômes cutanés étaient analogues au début de la déclaration des deux maladies, c'était confondu et on ne savait pas ce qui se transmettait sexuellement de l'autre qui se transmettait simplement par des linges. Il se trouve qu'elle était apparemment immunisée des deux, puisqu'elle a survécu. Et elle ne s'est posé pas la question s'il y avait du fric à la clé ou quoi. Elle a été soignée, les gens.
Oui, en fait, elle fonce. Enfin, c'est une fonceuse. Elle va toujours de l'avant. Elle ne se pose aucune question. Voilà. Alors, on a parlé du fait que c'était évidemment une cavalière émérite. Quand on dit les légendes se rencontrent, elle va travailler pour le Wild West Show de Buffalo Bill et voyager énormément.
Alors ça,
c'est ce qu'elle raconte.
Voilà. Et là, justement, ça permet encore de se rapprocher de la question quelle est la la véritable histoire de Calamity Jane. Elle connaissait Buffalo Bill. Ça a été attesté récemment par un historien américain qui a vraiment travaillé pendant 10 ans dans les archives locales de tous les États où elle avait été mentionnée. Et là, c'est un travail de recherche de 10 années, des années 90 à 2000 à peu près, qui est sorti aux États-Unis, malheureusement pas en français. Et on a épluché cette biographie qui bat en brèche une partie des choses qui sont dites dans les lettres et qui, au contraire, confirme et qui renforce certains traits de ce qu'elle raconte dans ses lettres. Et c'était à quel propos que j'évoquais ça?
Du Wild West Show.
Oui, le Wild West Show. Oui, en fait, Buffalo Bill, ils étaient copains, ils s'étaient rencontrés. Mais précisément, elle n'a jamais travaillé dans ce show-là. Elle a travaillé
dans un autre. Voilà. Et elle a voyagé. Je vais vous lire la dernière lettre où elle revient d'Angleterre. Donc, est-ce avec un de ses spectacles, on ne sait pas, mais voilà, elle l'écrit de Deadwood, juillet 1898, donc elle est morte en 1902, elle est sur la fin de sa vie. 4 années ont passé et je suis de retour à Deadwood. Je suis fatiguée et me sens si vieille. Je suis de nouveau infirmière, je peux toujours me rabattre sur ça. Je me languissais tant de notre vieille Ouest, j'étais si dégoûtée de vadrouiller dans le monde entier. Seigneur, comme j'ai haï l'Angleterre, avec ses snobs, ses femmes bonnes à rien, leur air affecté et leur accent. Ils ont oublié qu'une poignée d'Américains leur a flanqué la raclée il n'y a pas si longtemps. J'avais envie de le crier du haut des arbres. Je n'ai jamais vu autant de parasites humains qu'il y en a en Angleterre, en particulier les femmes avec leurs types. Sous prétexte qu'ils se transmettent d'une génération à l'autre une vieille propriété infestée de punaises, ils ont dans l'idée qu'ils sont des aristocrates. Alors qu'à part les nets, ce sont tout bonnement des indigents. Si jamais tu reçois ceci, alors tu sauras ce qu'étaient vraiment les femmes à bord du bateau de ton papa Jim. Elle a son franc-parler, hein. C'est tout ça.
Oui, il y a vraiment. Et ça se traduit vraiment dans la plume de ces lettres.
Voilà, alors ça, tout ça, ça vous a inspiré pendant des années pour.
Oui, j'y suis revenu régulièrement, j'ai relu la totalité régulièrement.
Et du coup, par le dessin, vous nous la rendez, mais incroyablement proche. On la voit dans la, la, la bon, dans la nature, dans sa cabane, elle cuisine, elle prend des bains, elle est amoureuse, enfin voilà. Vous avez vécu 8 ans avec elle pratiquement.
Oui, oui, même plus, parce qu'on a commencé les premières discussions avec Christian Perissin en fin 2001. Et le troisième et dernier livre est sorti il y a un an. Ouais, c'était une dizaine d'années dans sa proximité. Et c'est vrai que je peux faire une brève... ajouter quelque chose de très émouvant pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé avec la Métigène, peu de temps après, j'ai eu un accident cérébral et j'ai plus dessiné pendant plusieurs années. Et c'est avec Calamity Jane que je me suis remis au dessin et que Futuropolis nous a attendus, Christian Perissin m'a attendu, et pour qu'on finisse par découper en plusieurs ouvrages, ce qui pour nous était évidemment quelque chose, on voulait faire une somme, enfin, c'est-à-dire faire une somme pour brosser un portrait, vraiment, puisqu'on ne pouvait pas prétendre faire une biographie dans le sens où les sources sont très morcelées, sont pas toutes fiables, comme on en parle depuis tout à l'heure. Et c'est le charme des lettres. Voilà, c'est vraiment le charme des lettres qui m'a fait revenir au dessin, je dirais, et passer d'ailleurs, après ces aventures thérapeutiques pour moi, me remettre en selle avec une femme, dans la peau d'une femme. Et c'est vrai que c'est une expérience unique dans ma vie d'auteur, de vivre ça et de découvrir dans le même mouvement une amitié avec Christian Perissin. C'est un des mystères aussi pour moi, de la réussite de ce livre, au sens où je me reconnais dans un travail d'auteur, ce qui est toujours délicat, parce que pour moi, le dessin, c'est un travail, c'est une recherche, c'est pas une finalité, c'est vraiment une quête d'expressivité, d'être juste. Et Christian Perissin et moi, on ne s'est jamais chamaillé sur notre vision mutuelle du personnage. Il y a vraiment comme une association inconsciente, y compris de nos fantasmes, sur le personnage, qui a fait qu'on n'a jamais eu à débattre. Le territoire sur lequel on a eu à débattre, c'est jusqu'où va-t-on dans le quatre mains ? Jusqu'où est-ce que j'interviens dans le scénario et jusqu'où lui-même intervient dans mon découpage de l'histoire ? Ça s'est fait avec le premier tome, on s'est mis au diapason et ça a permis cette collaboration justement à quatre mains de va-et-vient, tout en respectant qu'à un moment donné, moi, j'interviens plus sur l'écriture et lui, de même, il me fait confiance pour les dessins. Mais avec toute une phase de très malléable, en fait, autant dans les crayonnés que dans les storyboards, que dans... quand je recevais son scénario, par exemple, je dessinais en lisant, mais j'étais au cinéma, quoi. C'était vraiment très, très vivant. Puis il décrit des scènes, il plante les décors, il y a les dialogues, déjà, et il me laissait être complètement libre de la pagination. Donc ça, c'était formidable. Ça m'a permis de, parfois, de dire, lui proposer, bah, là, on essaie, là, ça vaudrait le coup d'avoir plus de pages, plus d'espace. À ce moment-là, je lui renvoyais avec une suggestion de texte. Et vice-versa, parfois il me disait, non, tu pourrais resserrer, c'est inutile, on n'arrivera jamais. Voilà.
Alors, ben je ne peux que vous inviter à aller voir justement les planches originales qui sont exposées au Palais du Grand Large. Votre trait, il est d'une sensibilité extrême. Vous travaillez, alors il y a des tonalités superbes, et à la fois c'est très très enlevé. Il y a les deux aspects de cette femme extraordinaire. Vous traduisiez bien le mouvement, sa gouaille, ce côté enlevé, et puis toute la tendresse qu'on peut aussi trouver dans ce livre. Voilà, merci beaucoup. Et bien sûr, plongez-vous dans les ouvrages. Est-ce qu'on a répondu sur la véritable vie ?
Mais on peut peut-être répondre à des questions.
Bien sûr.
Mon souci, c'est que moi aussi, j'ai beaucoup aimé la lecture des lettres. Mais il y a peu de temps, elles ont vraiment été mises en cause, c'est-à-dire leur véracité a été mise en cause par des chercheurs américains. Est-ce que ça, vous en tenez compte à la fin de votre...
Justement, pour pouvoir tenir le fil rouge de ce portrait, on s'est tenu aux lettres. Sauf quand il y avait des confirmations ou des élaborations qui étaient apportées par Mac Laird, cet historien américain que j'évoquais tout à l'heure, qui qui atteste et qui confirme beaucoup de choses sur sa vie. Une autre chercheuse avait travaillé déjà sur un livre qui s'appelle Her Life, Her Legend, qui fait déjà la part des choses entre l'impossible, l'impassable, l'impensable, le probable, le possible, et le véridique. Il y avait quand même, dès le début de notre travail. Maintenant, nous, on ne s'est pas remis en question fondamentalement.
Non, mais ça ne change rien. De toute façon, elles sont magnifiques, en soi.
Exactement. Et en fait, même, j'ai envie de dire...
Quand j'ai su que, probablement, c'était des faux... Pardon.
C'est-à-dire, c'est quoi des faux? C'est comme la Bible, enfin, comme les grands mythes.
Oui, non, mais que c'est une femme qui s'est prétendue la fille de Calamity Jane et qui ne l'est pas.
Oui, Janet, on ne sait pas qui. Bon, voilà, c'est un autre projet, c'est un autre livre. Mais Janet, cette femme qui a pris la parole à la radio... Il y a 50-60 ans, on ne sait pas qui c'est. Vraiment, enfin, c'est... Mais ça vaudrait le coup de faire un livre, hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une mythomane, vraisemblablement, assez extraordinaire, elle aussi.
Oui, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui.
Moi, je voulais simplement dire... Je n'ai pas besoin du micro. Je voulais simplement dire que j'avais lu vos trois albums, vraiment les uns après les autres, que j'étais passionnée par la vie de cette femme, mais aussi... Peu importe si c'est la vérité.
Mais je crois qu'en fait, c'est un récit.
Oui. D'abord, c'est une histoire de femme et il y a beaucoup de choses à aller trouver là-dedans. Et voilà, et je vous remercie d'avoir fait cet album avec
Merci de
Christian
votre regard. Péris, hein. Merci de votre regard. D'ailleurs, c'est vraiment ça qui nous a touchés, qui a fait qu'on a été au bout, c'est d'écrire la vie d'une femme. Essayer de vraiment... comprendre ce qui était possible aussi dans son temps, vraiment, dans son quotidien. Donc tant mieux si vous l'avez perçu, c'est vraiment notre soi initial.
Est-ce qu'on aborde la question du genre sexuel? Il y a beaucoup de ces abus masculins qui sont cités et qui sont connus dans l'histoire de cette période-là.
Oui.
Donc, à côté de Calamity Jane, y a-t-il une autre identité qui fait partie du panthéon de ces femmes
Elle parle des frères Dalton dans ses lettres. Et c'est vrai que là aussi, ce qui donne vraiment un sens très, très crédible à sa manière d'en parler, elle n'en parle pas comme des légendes. Et en même temps, elle en parle comme on pouvait en parler de son temps, c'est-à-dire en fonction de ce que disent les journaux. Ça, c'est un élément extrêmement important dans ce travail et dans cette époque. Parce qu'elle dit oui, ben, j'ai rencontré je ne sais plus quel frère, bon, il n'est pas du tout comme ils disent dans les journaux, c'est un brave petit gars. D'ailleurs, c'est comme la plupart des cow-boys, hein. c'était des fils d'agriculteurs ou de gens très très modestes et qui passaient pas leur temps à tirer sur les gens, qui avaient des cotes pour garder les troupeaux de bétail. Parce que quand un troupeau est lancé à vive allure et qui s'excite, il n'y a qu'un moyen quand le cheval ne suffit pas pour rabattre, c'est de leur faire peur avec des coups de feu en tirant en l'air. C'est pour ça que le cow-boy a des pistolets. Bon, effectivement, il est arrivé des fois. Mais du coup, je perds de vue votre question.
C'est bien qu'on apprenne sur les Dalton, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres femmes.
D'autres femmes?
Il y a
la femme qui,
celle qui était dans le Wild West Show et qui tirait la carabine.
Oui, mais je ne sais pas si elles se sont croisées. Comment s'appelait-elle? Enfin bon,
oui,
c'est une grande tireuse.
Une grande tireuse, oui.
Ouais.
C'est très joli.
Oui.
Il y a des photos d'elle aussi.
Oui. C'est Annie Oakley.
Annie Oakley, ouais. Voilà.
Ouais. Ah, c'est une figure à laquelle j'ai envie de m'intéresser aussi, bien sûr. Mais je ne veux pas non plus devenir un spécialiste de la biographie des légendes de l'Ouest. Après, ça fait des étiquettes, vous savez. Mais bon, qui sait. Oui, pour les femmes. Mais c'est vrai que, oui, elles étaient peu nombreuses. Et elles devenaient intéressantes quand elles faisaient des trucs d'hommes, quoi. C'est une caricature qu'on a encore aujourd'hui dans l'ambiance assez machiste qui continue à régner dans nos sociétés. Une vraie femme, c'est une femme qui devient hyper masculine jusqu'à la caricature et c'est odieux. Bon, ça c'est vrai que la question du genre, c'est une question essentielle à ce genre de destinée. Ouais. Voilà, oui.
Je voulais vous poser une question sur le choix de votre art graphique. On n'est pas habitué du tout. Lucilius, Tintin et Milou, ça c'est pas le genre de graphisme que vous avez choisi. Est-ce que vous avez discuté pendant longtemps avec votre collègue sur la façon de vous présenter cette histoire dans un dessin un petit peu cinématographique, continu, des images qui vont même au bout de la page, en dépassant la page? Est-ce que c'est un choix délibéré que vous avez fait après la friction?
Oui, tout à fait. En fait, bon, vous parlez de grands anciens, Hergé, Maurice, qui est encore vivant, attends. J'ai un doute là. Enfin, pour moi, c'est, ils sont toujours vivants, même Franquin est vivant, Giraud est vivant.
Fred est encore vivant.
Bien sûr. Et en fait, moi, je m'inscris dans la... Si vous regardez, si vous voulez, je vais répondre avec des mots, mais c'est plus mon cheminement graphique qui permettrait de vous répondre, c'est-à-dire... Encore une fois, pour moi, le dessin est une quête, et j'ai travaillé du dessin réaliste, j'ai fait des couvertures de livres d'épouvante, j'ai lu il y a 20 ans, j'ai fait des choses extrêmement réalistes, extrêmement fouillées, détaillées, des pages documentaires pour Gallimard, pour raconter la vie des Gallo-Romains, etc. Et toujours, 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 j'ai fait des croquis, et j'ai fait des petites histoires. Mais il fallait que mon dessin se... mature en même temps que moi-même, en même temps que ma vie mature, ma vie d'homme, ma vie de, puis petit à petit ma vie de père, etc. Et donc le dessin, Christian Paressin, lui connaissait mon travail quand on s'est rencontrés. Donc il savait que, et justement c'est une des spécificités de ce projet, on s'est complété à un endroit très particulier, c'est-à-dire que lui, c'était un fortiche dans la bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire qu'il sait bâtir un scénario de cinéma, de série télé, de bande dessinée, case à case. C'est-à-dire qu'il est capable, et il le fait encore avec certains dessinateurs, très classiques justement, d'envoyer un scénario bouclé de A à Z, de la page 1 à 46. Et puis il souhaitait développer des récits où le dessinateur puisse s'emparer du récit et développer, aller au-delà du récit, comme je cherche à le faire moi dans le dessin. Et moi, ce qui me manquait, c'était justement un scénariste qui puisse avoir les reins suffisamment solides pour me donner une structure et en même temps me laisser cette liberté. Et j'ai rencontré Paressin justement à un moment où je commençais à adapter, à travailler sur des récits adultes. Ça faisait déjà une quinzaine d'années que je faisais des illustrations donc plutôt pour la jeunesse et puis dans d'autres domaines. Et j'y arrivais pas, quoi. Je me perdais. Et puis ça, en m'offrant la possibilité de raconter cette vie, m'a donné cette liberté que je lui ai bien rendue.
Oui, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est votre, vous n'en avez pas vraiment parlé, mais votre description de la conquête de l'Ouest, c'est un regard peut-être pas d'ethnologue, mais quand même d'historien, enfin, c'est intéressant. Vous êtes au niveau de la documentation, enfin, vous avez pu quand même travailler des choses particulières. Enfin,
Alors, tout à fait, c'est-à-dire que moi, on en parlait dans une causerie avec Blin hier. Lui, il était cow-boy quand il était petit. Moi, j'étais indien. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de débattre. Mais ça aurait mal fini. Moi, j'étais toujours des côtés... un autre auteur a dit que c'était des sacrés losers, les Indiens. Sauf que, justement, il y a un revival traditionnel. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour la documentation sur... Moi, en fait, de toute ma vie, j'ai été fasciné par ces peuples-là. Et il se trouve que j'ai rencontré des Amérindiens traditionnels qui sont pas enfermés dans l'alcoolisme, qui sont passés par là, mais qui sont sortis des chefs traditionnels. Et notamment, si ça vous intéresse, il y a un livre qui fait tragiquement et en même temps de manière très burlesque le pont à travers le personnage qu'il a écrit, c'est Archie Fire Lamdir, qui est un grand medicine man qui a réintroduit dans les prisons américaine les rituels qu'on appelle chamaniques, qui sont des rituels de guérison spirituelle d'une manière large. Et j'ai rencontré sa dernière compagne, qui est une femme blanche, et qui est, à qui il a légué son savoir de chaman. Et plus récemment, je fais la rencontre assez régulière, annuellement d'un homme qui s'appelle Tuamini Crankin, qui a écrit, qui est algonquin, qui est le chef spirituel de son peuple, qui lui a écrit une biographie qui est passionnante, qui s'appelle... je lui ai demandé d'ailleurs récemment l'autorisation d'éventuellement de faire une adaptation en bande dessinée. Il parle français, il est québécois, et qui s'appelle « On nous appelait les sauvages ». Et c'est vrai que cette phrase « On nous appelait les sauvages », c'est la phrase d'un constat, mais aussi c'est au passé. C'est-à-dire qu'une partie des membres qui appartiennent à ces communautés-là vivent un revival qui n'est pas seulement de décorum ou de folklore. Il y a vraiment un retour dans l'ouverture à la spiritualité première de ces peuples, dans la mesure où ils sont conscients que c'est dans l'échange, et c'est pas dans le repli sur l'identité sur une identité première amérindienne que les choses vont se faire, c'est en s'ouvrant sur les autres traditions. Et une des plus belles choses que je peux attester aujourd'hui, c'est que par exemple Tuamini Crankin, c'est ce chef algonquin, est accueilli en France les bras ouverts dans les monastères tibétains. Et ils font à ce moment-là l'échange, ce qu'on appelle l'échange de la plume et de l'écharpe. La plume d'aigle, et vous savez qu'une plume d'aigle, on ne l'achète pas. Si quelqu'un vous dit un jour qu'il a acheté une plume d'aigle, vous appelez la police canadienne ou américaine, parce qu'aujourd'hui, légalement, c'est interdit. C'est du vol. Une plume d'aigle, on la trouve et elle nous parle. Voilà. Et sur l'aspect historique, moi, toute ma vie, j'ai fait que me documenter. Et c'est vrai que mon chemin m'a permis ce cadeau de rencontrer des personnes ancrées dans cette tradition. Et ça n'a fait que confirmer certains aspects que j'avais un petit peu perçus à travers les livres. Mais voilà, je suis un petit blanc. Moi, je préfère rencontrer en vrai. Mais voilà, ça a été des cadeaux. Et sur l'histoire américaine, j'ai très envie de lire l'Empire Comanche, par exemple.
Oui, d'un auteur invité.
D'un auteur invité, oui.
Oui, en ce moment, au festival. Si, il y a juste une petite... vous m'avez montré un très très beau livre de photos de Matheson, qui vous a inspiré pour une...
C'est Richard Matheson, oui. Oui, il y a eu beaucoup de photographes autres que Curtis qui ont sillonné l'Ouest, avec des fortunes parfois plus ou moins grandes personnelles. En tout cas, et il y a Matheson, oui, et qui lui était... Alors c'est quoi ? Il était migrant, parce que c'est pas lui qui se baladait à bicyclette, c'est encore un autre.
C'est encore un autre.
Oui. Avec une bicyclette de 30 kilos, on va retrouver le nom.
C'est, oui.
Richard Matheson. Oui, regardez sur Internet, ou trouvez ses livres. C'est des livres entre 1880 et 1900. Il photographie la migration, mais quand justement le migrant commence à s'asseoir et devant sa maison de rondin, à regarder le lac qui s'étend devant lui, et puis sa femme sort en violon et une vie douce commence au-delà du fracas du western et de la violence des éléments, c'est vrai, de la violence. Et là encore une fois, les Indiens ont souvent porté secours aux migrants. Parce qu'ils les reconnaissaient avant tout comme des êtres humains, avant d'être des envahisseurs. Il y a toujours aujourd'hui une date anniversaire qui s'appelle Thanksgiving Day, où on tue une dinde industrielle, malheureusement la plupart du temps aujourd'hui.
Oui, c'était le cadeau.
Et c'est un cadeau qu'on fait des Indiens de la côte Est des premières, je ne sais pas si c'est le 17e siècle, je crois que c'est quelque chose comme ça.
Oui, c'est les premiers migrants qui arrivaient et c'était le cadeau de bienvenue. On célèbre, c'est ça, le 5.
Les Blancs continuent, et la plupart, mais vraiment ne savent pas qu'ils remercient les Indiens en faisant ça.
Ah ouais. On va peut-être vous libérer parce qu'on a dépassé l'heure. C'était tellement passionnant.
C'était 13h. Ah, oui. Ah oui, d'accord.